rentré à New York et qu'il était presque certain que Billy ne reviendrait jamais dans cet endroit. Elle-même y reviendrait-elle? Dieu seul le sait. Alors que ces cochenilles dévorent les arbres et la maison et la plage, qu'elles dévorent tout le cap et l'océan entier, peu lui chaud. Mais un après-midi, vers 3 heures, elle sentit se répandre autour d'elle une odeur de fumée. Elle observa les alentours et aperçut Billy qui, avec une torche de vieux journaux, mettait le feu aux toiles grises des cochenilles. Il était là, dans son short kaki, brandissant sa torche enflammée vers les hautes branches des arbustes rabougris, où les cochenilles avaient tissé leur maison. Il y en avait des milliers et des milliers, et il y mettait le feu. C'était enfantin, c'était stupide. De la terrasse où elle se trouvait, Clara pouvait voir que les cochenilles avaient étendu leur royaume d'arbre en arbre sur tout le domaine. Et que maintenant, à la fin de l'été, ils étaient presque tous entièrement recouverts de cette matière grise qui ravageait leur feuillage. Et voilà que Billy engageait tout seul avec sa torche de papier un combat dérisoire contre ces myriades d'insectes. Elle se leva et poussa un cri de dérision.
« Mais qui est-ce que tu fabriques, Billy ?»«
J'extermine les cochenilles. » »«
Tu deviens fou, il y en a des millions. » »«
Ça m'est égal, je vais toutes les brûler avant que nous partions d'ici. »
Renonçant à le raisonner, elle retourna s'asseoir dans sa chaise longue. Billy poursuivit son carnage tout l'après-midi. Cette odeur de fumée était fort désagréable. Mais Clara savait qu'il était inutile de protester. Ce qu'elle avait de mieux à faire était de boire, ce qu'elle fit. Elle alla se préparer un thermos de gin glacé qu'elle sirota tout l'après-midi pendant que son mari attaquait les insectes avec ses torches de papier. Vers 5 heures, elle commença à se sentir d'une humeur joyeuse et insouciante. Ses rêves d'avenir devenaient presque euphoriques. Elle se voyait déjà telle qu'elle serait l'hiver prochain, dans ses riches vêtements de deuil, un tailleur noir bien coupé, orné de quelques bijoux sévères, et une cape de fourrure noire. Elle se voyait escortée de chevaliers servants aux traits encore indistincts, bercée par le ronronnement rassurant de leur voiture, qui se glisserait à travers les rues glacées pour aller d'un restaurant à un théâtre, d'un théâtre à un appartement. Non. Pas encore une boîte de nuit. Pas si tôt. Après, oui, son attitude était saine. Elle n'irait pas faire semblant d'éprouver des sentiments qu'elle n'éprouvait pas. De la pitié, certes, elle avait du chagrin pour lui. Mais quand l'amour est mort depuis 5 ou 6 ans, pourquoi se forcer à penser que c'est une perte irremplaçable? Le soleil allait se coucher quand le téléphone sonna. C'était si rare à présent que sa sonnerie la fit tressaillir. Tout le cercle de leurs intimes s'était éloigné d'eux. Chacun retournait à ses propres soucis, comme les acteurs qui se dispersent et retrouvent leur vie personnelle une fois le rideau tombé, à la fin de la représentation. Elle prit son temps pour répondre. Elle se doutait que cela devait être le docteur. Et c'était bien lui. Les encouragements d'un médecin sont d'habitude plutôt décourageants.
Alors, comment ça se passe, ma chérie?
Comment se passe quoi?
Votre escapade hors des vapeurs empoisonnées de la métropole.
Si c'est une question sérieuse, cher docteur, je vous fais une réponse sérieuse. Votre malade a une telle nostalgie de ces vapeurs empoisonnées qu'il est en train d'en fabriquer ici.
Quoi? Quoi?
Est-ce que la ligne est mauvaise? Vous ne m'entendez pas?
Mais je vous entends très bien, mais je me demande ce que vous voulez dire.
Eh bien, je vais vous expliquer. Billy, votre cher malade, est en train de polluer l'air de notre retraite estivale en faisant brûler des espèces d'insectes appelées cochenilles. La fumée est suffocante. C'est pire que l'oxyde de carbone dans un embouteillage sous un tunnel. Je tousse, j'étouffe, mais il continue quand même.
Bon, au moins, il est encore alerte.
Ah bah ça, on peut le dire. Vous voulez lui parler?
Non. Dites-lui seulement... Non, ne lui dites pas que j'ai appelé. Il pourrait se demander pourquoi.
Mais pourquoi diable ne lui avez-vous rien dit? Qu'il sache au moins, et...
Elle ne savait pas comment terminer sa phrase. Alors elle cria dans le téléphone.
Je ne peux plus supporter cela. C'est au-dessus de mes forces. J'ai la tête remplie d'horribles pensées. Je calcule le temps que j'aurai encore à supporter tout ça avant la fin.
Calmez-vous, mon petit.
Ah, c'est facile à dire. Et ne m'appelez pas votre petit. Je ne suis pas votre petit. Je deviens folle. S'il n'arrête pas de brûler ses cochenilles, je rentre en ville, seule. Au moins, je ne verrai plus ces arbres malades, ni ces torches de papier, ni l'autre qui titube dehors. Il faut que je raccroche, il revient vers la maison.
Clara, ça n'est pas facile de se montrer humain, mais pour l'amour de Dieu, essayez de...
Vous pouvez me dire comment? Me faire une ordonnance qui réglera le problème?
Elle jetait un coup d'œil par la porte-fenêtre et suivit le long retour de Billy vers la terrasse que le soleil avait désertée.
Clara, l'amour peut prendre différentes formes. Votre esprit doit être rempli d'idées bizarres dont vous avez honte et que vous chasserez une fois que l'épreuve sera passée.
Ah, là, vous marquez un point. Je suis pleine d'idées bizarres en ce qui concerne mon avenir.
Vous avez parlé d'une ordonnance ?
Oui. Qu'est-ce que vous me prescrivez ?
Des souvenirs. Essayez de vous rappeler comment c'était avant.
Ça me semble tout à fait impossible.
À première vue, oui, mais essayez.
Merci. Je vais déjà essayer de respirer un peu. Si seulement le vent de la mer pouvait chasser toute cette fumée.
Lorsqu'elle revint sur la terrasse, il était là. Il avait l'air exténué. Il s'était brûlé à plusieurs endroits et s'était appliqué sur ses brûlures des compresses humides de bicarbonate de soude qui avaient une odeur désagréable. Il prit l'autre chaise longue, il la tira un peu à l'écart et il la plaça de façon que Clara ne puisse voir son visage.
Tu abandonnes ?
Plus de papier, plus d'allumettes.
Il n'avait plus rien à se dire. La marée était haute et l'eau clapotait presque à leurs pieds.
Les cochenilles.
Puis elle répéta tout.
Les cochenilles.
Pourquoi cries-tu ? Il n'y a pas de quoi crier. Une plaie sur la végétation, c'est comme une plaie sur son corps.
C'est juste un endroit que nous avons loué pour l'été. Nous n'y reviendrons jamais.
Un homme dans sa jeunesse, c'est comme un endroit loué pour l'été.
Il avait parlé d'une voix si douce et si lasse qu'elle ne l'entendit pas.
Comment ? Qu'est-ce que tu dis ?
Il répéta un peu plus fort. Alors, elle sut qu'il savait. Leurs chaises étaient loin l'une de l'autre et le soleil était en train de disparaître. Un couple de vieux compagnons regardait tomber la nuit et leur instinct leur commandait de se rapprocher l'un de l'autre. Elle se leva en tremblant et tira sa chaise longue près de la sienne. Ses mains brûlées étaient posées sur le bras de la chaise longue. Au bout d'un moment, une lune romantique se leva à l'horizon qui vint relayer la garde du soleil. Alors, elle posa sa main sur la sienne. Un vent froid, chargé d'appréhension partagée, vint balayer la terrasse baignée par le clair de lune et leurs doigts se mêlèrent. Clara pensait à la passion qu'ils éprouvaient autrefois l'un pour l'autre. Le temps l'avait consumé, comme Billy avait tenté de consumer les cochenilles de cette résidence d'été, où, non, ils ne reviendraient jamais, ni ensemble, ni séparément.
Bon, ça se termine par une belle métaphore sur le temps. Enfin, belle, je ne sais pas, mais... tout passe, tout lasse.
Voilà. Alors, le succès va se confirmer deux ans plus tard avec un tramway de mes désirs, dont vous entendez la musique du film en fond, là. Donc c'est il y a 15 ans qu'il mettait en scène et ça va marquer les débuts d'un jeune comédien de l'acteur studio, Marlon Brando.
Eh oui, qui joue le rôle de Kowalski.
On se rappelle de lui dans son t-shirt, moulant, plein de sueur.
Plein de muscles.
Alors grâce à cette seconde création, Tennessee Williams va remporter le prix Pulitzer en 1948, ainsi que le Drama Critics Award. Alors la pièce va bientôt être traduite en 19 langues et jouée sur toutes les grandes scènes mondiales. Donc en 1951, Elia Kazan adapte la pièce au cinéma. Et donc où Brando il reprend le rôle tenu sur scène, et c'est Vivian Leigh qui va jouer le rôle de Blanche Dubois. Vous savez, Vivian Leigh, celle qui joue, c'est Scarlett dans Autant d'emporte le vent.
Tout à fait.
Alors, le film fait un triomphe et il est nommé pour 12 Oscars, dont celui du meilleur film.
Trop fort, hein, parce que les Oscars, le prix Pulitzer, on peut juste rappeler au passage que c'est la récompense, tous les arts confondus, c'est la plus haute récompense aux États-Unis.
Alors, en 24 ans, 19 pièces de Tennessee Williams sont créées à Broadway. Comme ce fut le cas pour un tramway, Hollywood achète les droits et adapte au cinéma les plus grandes pièces de Tennessee Williams, comme La chatte sur un toit brûlant, qui a aussi le prix Pulitzer en 1955, et porté à l'écran dans une réalisation de Richard Brooks en 1958 avec Elizabeth Taylor et Paul Newman dans les rôles principaux.
Oui, puis à Paris, ça a été joué par Jeanne Moreau au théâtre, le personnage de Margaret.
Donc en 1959, Mackenzie tourne Soudain l'été dernier avec Elizabeth Taylor, Catherine Hepburn et Montgomery Clift, là, dont j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et donc, en 1964, sort sur les écrans La Nuit de l'Iguane, réalisé par John Huston avec Richard Burton et Ava Gardner.
Wow.
Alors, Propriété interdite de Sidney Pollack sort en 66 avec Natalie Wood et Robert Redford, d'après une pièce en un acte de Williams aussi. Donc, toutes ces adaptations au cinéma contribuent évidemment largement à la renommée internationale de l'écrivain, hein, qui est couvert de gloire. De gloire.
Quand même, oui, hein. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, tu viens de citer la Nuit de l'Iguane. En fait, c'est son dernier grand succès, mais il lui reste 20 ans à vivre. C'est ça qui est étonnant. Hein. Ben après, ouais. Bah, il va continuer à écrire, mais c'est passé, quoi, un peu. Ouais, c'est étonnant. Hein. Donc, ça va peut-être pas être les années les plus faciles pour lui.
Alors, là, on fait un petit pas de côté, voilà, par rapport à l'émission. On va vous passer une chanson. Alors, pas forcément notre chanteur préféré, mais voilà, c'est une chanson qui a été écrite par Michel Berger.
Tout à fait.
Et donc, interprétée par Johnny Hallyday. Voilà. Et donc, il s'appelle Quelque chose de Tennessee.
À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit, quelque chose en nous de Tennessee. Et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Une étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
bien belle chanson quand même, hein, avec Peter Frampton au solo guitare, Michel Berger France Gall en tant que choriste là à la fin, et Nathalie Baye qui, on en parlait tous les deux, qui dit le petit extrait voilà. De la chatte sur un toit brûlant avant la chanson.
Au début de la chanson.
C'est l'époque intello de Johnny quoi.
Alors. Principalement connu quand même pour son œuvre théâtrale, Tennessee Williams est quand même également l'auteur d'une œuvre romanesque qui confirme tout le talent de l'écrivain. Il est l'auteur de deux romans, le premier, Le printemps romain de Mrs. Stone, est publié en 1950, adapté à l'écran en 61 et en 2003 aussi. Et d'ailleurs la première adaptation c'est aussi avec Vivian Leigh. Le second roman est Une femme nommée Moïse, qui est publié en 1975. Et il publie également une cinquantaine de nouvelles. Alors, loin de la vie trépidante de New York, Tennessee Williams achète une maison à Key West, une ville insulaire située sur le point le plus méridional de la Floride. Il s'y installe avec Frank Merlo en novembre 1949. Cette maison que Williams améliore et agrémente d'une piscine devient vite un lieu essentiel dans la vie privée de l'écrivain. Celui-ci y travaille, il reçoit ses amis de passage, tandis que Frank se charge, lui, des modalités de la vie pratique sur le domaine, en fidèle gardien des lieux qu'il restera pendant des années. Alors Tennessee Williams a un aspect jovial, le visage souvent éclairé par de grands rires, et cependant, il devient quand même de plus en plus anxieux, doute de son avenir et de la pérennité de sa gloire. Et il dit, si tu veux bien
oui,
dire...
Oui, il dit depuis 1955, j'ai presque toujours écrit sous l'influence de stimulants artificiels.
Voilà, donc c'est ce qu'il écrit dans ses mémoires. Et donc il avoue porter en lui un besoin constant d'écrire et de boire. Il regrette sa dépendance des stimulants, dont les médicaments, et il déconseille à tout jeune écrivain d'emprunter la même voie
que lui. Et oui, pourtant ça rappelle bien d'autres écrivains et écrivaines. Ouais.
Alors, acclamé, adulé, il est désormais quand même d'un autre temps. Tennessee Williams ne se fait plus d'illusions sur son avenir d'écrivain, mais apprécie d'être honoré dans tel festival, tel théâtre renommé ou bien telle université. Le succès et les médailles couronnent son génie. Et en novembre 1979, à Washington, il est décoré au Centre Kennedy pour sa contribution aux arts. Et en juin 1980, il reçoit à la Maison Blanche la médaille présidentielle de la liberté des mains de Jimmy Carter. Alors le dîner de gala que ses amis de Chicago organisent pour son 70e anniversaire en 81 résonne comme un dîner d'adieu à sa carrière. Et en février 82, pendant la cérémonie où le maire de New York lui remet la médaille de la ville, il plaisante avec Truman Capote en lui donnant rendez-vous au paradis. Excusez-moi. Un an plus tard, il est retrouvé mort, le 25 février 1983, dans sa suite de l'hôtel Élysée à New York. Le médecin légiste va conclure à une mort par étouffement, le bouchon d'un vaporisateur nasal étant été retrouvé dans le larynx de l'écrivain.
Horrible.
On ne sait pas comment il a fait son compte.
Alors, bah, il a voulu apparemment décrocher le bouchon avec les dents, un truc comme ça, j'avais entendu ça. D'ailleurs, il avait déclaré « je mourrais d'une grappe de raisin mal lavée ». Donc on n'est pas loin.
Bon, c'était un peu plus coriace à passer là, voilà. Alors,
c'est horrible.
Bah oui, les obsèques sont célébrées en l'église Saint-Malachy du théâtre district de New York et il repose au cimetière Bellefontaine de Saint-Louis. Dans le Missouri.
Voilà, et dans la chambre, il n'y avait pas que le vaporisateur. Il y avait de l'alcool, il y avait des barbituriques, oui, il y avait des somnifères.
Jusqu'à la fin de sa vie, de toute façon, il a consommé. Voilà.
Et à propos de ces paradis artificiels, bah, pour conclure par une belle citation, hein, j'ai trouvé cette citation dans une nouvelle de Tennessee. La nature de l'homme est riche de ses palliatifs artificiels. Il se met en quatre pour dissimuler ses incomplétudes. Il sent qu'une part de lui-même est semblable à un mur qui manque dans une maison, à un meuble qui manque dans une pièce, et il essaie tant bien que mal de remédier à ce manque. L'usage de l'imagination, l'exercice du rêve ou des plus hautes ambitions de l'art, c'est le masque qu'il fabrique pour dissimuler ses incomplétudes. ou encore la violence, ou la guerre, que ce soit entre deux hommes ou entre deux nations, apparaissent aussi comme une compensation aveugle et insensée à tout ce qui n'est pas vraiment achevé dans la nature humaine. Donc il était bien conscient de cet apport de substances artificielles qui il ne pouvait pas s'en passer pour écrire, hein, à la manière d'une Duras qui disait qu'elle buvait 3-4 litres de vin par jour à une époque. Quoi.
Ah oui, oui. Bon.
Voilà.
Alors, on peut noter aussi qu'il était très ami avec Carson McCullers,
oui.
Donc grande écrivaine qui a écrit beaucoup de nouvelles.
Sur
aussi.
Laquelle nous avions fait une émission.
Une émission, hein, voilà.
Il faut consulter ça en podcast.
Et donc, aussi, comment ça s'appelle, François Sagan avait traduit une pièce de théâtre, alors je ne sais plus laquelle,
mais c'est juste.
Et donc, elle disait qu'elle n'avait jamais autant travaillé de sa vie pour la traduction de cette pièce de théâtre.
Enfin, elle avait travaillé.
Et donc, elle avait été reçue par Tennessee Williams dans sa villa de Key West. Voilà.
Ouais, ça avait dû plaire à Sagan.
Voilà, c'est ça.
Non, et puis on ne rappellera jamais assez les adaptations filmographique. Il y a eu 11 films. Les réalisateurs de l'époque, Mankiewicz, Houston, Sidney Lumet,
oui,
Joseph Losey,
le plus grand cinéaste
Elia Kazan,
de l'époque.
Bah, quand même.
J'espère que ça vous aura donné envie de lire du Tennessee Williams ou de regarder ses films.
Ou d'apprendre la chanson de Johnny.
Voilà. Vous avez le choix. Eh bien, merci de votre écoute et puis à bientôt.
À bientôt.
Dans la prochaine émission, on parlera de Joseph Kessel.
Oui, il est assez connu aussi.
Voilà.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.
des principes actifs à Évreux
sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Reduce the choir to a soloist. Unload the clip and leave a hole in shit the size of boat is in. Patrol the vulture pit, I'm leaving marks in them like socialists. See, this the moment that you realize you're just not a vocalist. The coldest ocean drip is a coaster with cold Milosevic. A male chauvinist, you could cross it off of your grocery list. You hold a swollen ribs, I'm beholden to olden cocorists. The dope is odorless, getting hold of it, kinda onerous. Be all felonious, I got dogs and homie, they Dobermans. We noblemen, there's oxygen, hemoglobin, and odorous. So close your lips, hockey the shoddy, you'll leave your frozen stem. I blow the fair homie, the whole the size of a poker chip. The Yaba ownership, just another level of showmanship. I have that show, but pick me, you jokers getting the bulk of it. It hit his lower lips, now his closure, homie, is over with. Yeah.
Fuck out the way, pa, I'm coming through. I'm Vinny P, doggy, who the fuck is you?
Pussy, who the fuck is you?
Come on, who the fuck is you?
Who the fuck is you?
Who the fuck is you? Fuck out my way, papa, I'm coming through. I'm Vinny P, doggy, who the fuck is you?
Pussy, who the fuck is you?
Come on, who the fuck is you?
Who the fuck is you?
Come on, who the fuck is you?
I'm Pistolero Pazzi, so every chopper reliable. The Brujeria banger, the murders is justifiable. His head shots, homie, the body identifiable. The body parts attack, but the face is unrecognizable. The weaponry is sizable, all of it modifiable. The doctor told my mother her child is certifiable. This Gucci lamb leather is terror, homie, is diable. Serial number off money, they ain't classifiable. It's way too cold and the temperature ain't survivable. These hollow points, homie, the horror is indescribable. They think that I'm maniacal, mercenaries is glamorous. The desert eagle ain't even deadly, homie, it's cancerous. The rhyme annihilation, obliteration, calamitous. I took a vote to see if you pussy, it was unanimous. The motherfucking son of an emperor, I'm Britannicus. The temple of a riot, the mind of a psychoanalyst.